Radio Campus Lille, 16h. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. En 1969, Radio Campus voyait le jour, première radio libre et associative dans le nord de la France.
En 2024, c'est dans les Hauts-de-France que Radio Campus fête ses 55 ans.
Avec une programmation très éclectique, longue vie à Radio Campus.
Bonjour et bienvenue sur Quoi de Neuf. Aujourd'hui, je vous parle de sport, car du 26 juillet au 11 août 2024 se tiendront les JO à Paris. Cet événement sportif est suivi par des milliards de personnes à travers le monde. C'est évidemment un événement important, tant au niveau sportif que diplomatique. L'image de la France est en jeu, et une question revient sur toutes les lèvres. Serons-nous prêts pour les JO? C'est la revue de presse.
Sensationnel, voilà France Soir!
Demandez France Soir, Paris Presse, Le Monde! Demandez le Figaro littéraire!
La revue de presse.
Alors, où en sommes-nous pour les JO 2024? Rappelez-vous, le 26 juillet 2023, Macron nous promettait que la France serait prête à temps, sans augmentation d'impôts, avec une billetterie pour tous, qu'il se déroulerait en toute sécurité et qu'un service de transport à la hauteur serait mis à disposition. Ces promesses seront-elles tenues? Un article du 20 décembre dernier publié dans Les Échos aurait tendance à nous rassurer. Tony Estanguet, l'organisateur des Jeux, assure que tout est dans les clous, les infrastructures seront livrées dans les temps, le budget est respecté. L'article nous rappelle tout de même les zones de doute, la sécurité, les transports, le montant de certains billets, l'organisation de la compétition de surf à Tahiti. Des doutes subsistaient donc quant à la sécurité, au transport et à l'accessibilité financière. Mais sommes-nous sûrs que nous serons prêts à temps? On ne va pas être prêts. C'est la déclaration d'Anne Hidalgo, relayée par Ouest France le 11 décembre. Je cite « On est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau de ponctualité, de confort pour les Parisiennes et les Parisiens. » Concrètement, la mairesse de Paris ne croit pas en une solution assez rapide du côté des transports et du logement des SDF. La faute incomberait à la fois au gouvernement et à la région parisienne. Selon Hidalgo, c'est un travail d'équipe et donc la responsabilité est partagée. Cette déclaration a suscité un tollé chez ses collègues, notamment chez Clément Beaune et Valérie Pécresse, qui l'avaient, pour l'un, accusé d'essayer de faire le buzz, pour l'autre, reproché son manque d'implication dans les comités de mobilité visant à résoudre ses problèmes de transport. Nous serons prêts, a assuré Valérie Pécresse sur X. Nous serons prêts, c'est aussi ce qu'a affirmé Amélie Oudéa-Castéra le 2 janvier. L'actuelle ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques réaffirme les ambitions françaises en termes de transport, d'écologie, de sécurité et de résultats sportifs. Il y a un travail immense qui est mené, souligne-t-elle. Tous les sites des Jeux Olympiques et Paralympiques seront desservis dans des conditions satisfaisantes avec 100% de solutions en transport en commun pour être en plus au rendez-vous de nos ambitions écologiques. En attendant, le gouvernement a mis en place le site d'information anticiperlesjeux.gouv.fr pour savoir quelles lignes de transport en commun pourraient être impactées par le voyage des milliers de spectateurs. Le site, Sortir à Paris nous informe, afin de garantir des déplacements fluides et sécurisés tout au long des Jeux de Paris 2024, Île-de-France Mobilité a donc imaginé un dispositif de transport ambitieux avec notamment des itinéraires adaptés à l'événement et des itinéraires alternatifs en cas d'incident, une application mobile pour faciliter les déplacements des spectateurs, une offre de transport renforcée de 15% ou encore la mise en place de navettes bus point à point pour les spectateurs. Un transport qui sera impacté par les Jeux, c'est celui des céréales. Ces marchandises qui transitent d'ordinaire par la Seine seront bloquées du 20 au 26 juillet car les préparations des Jeux seront mises en place sur le fleuve. Cependant, le ministre de l'Agriculture a reconnu que pendant un mois et demi, il y aurait des perturbations pour le transport céréalier et ce, en pleine période de moisson. Sur cette question de transport, il n'y a pas de consensus, mais côté prix, qu'est-ce que ça donne? Ces JO sont-ils accessibles? Eh bien, oui et non. Le Monde nous rappelle dans un article du 7 février que la vente de billets se fait par vagues. Sur les 10 millions de billets disponibles pour les Jeux Olympiques, 2,8 millions pour l'édition paralympique, près de 8 millions ont déjà été vendus, se félicite le COJOP. Une plateforme de revente sera par ailleurs ouverte au printemps, accessible depuis le site de la billetterie officielle. Sur RTL, l'organisateur nous rappelle que sur les 10 millions de billets, la moitié était disponible à moins de 50 euros. Yves Calvi n'a pas manqué de lui rappeler que certains se vendaient à plusieurs centaines d'euros. C'est le jeu de l'offre et la demande. D'ailleurs, si vous ne voulez plus de votre billet, sachez que vous pouvez toujours le revendre sur le site officiel ticket.paris2024.org. Puisque nous parlons d'argent, continuons. 983 352 euros, C'est ce qu'aurait coûté la décoration de la façade de la mairie de Paris, selon le site Macellum. L'article de West France, datant du 9 février, relaie le tweet des élus de Changer Paris. Une goutte supplémentaire dans l'océan de 10 milliards d'euros de dettes grâce à Anne Hidalgo qui dilapide l'argent des Parisiens. Enzo Morel, investi dans le mouvement Saccage Paris, a dévoilé un document montrant que la somme pour l'habillage et la signalétique de la ville de Paris pouvait atteindre au maximum 6 millions d'euros. Tandis que la mairie est décorée, des locataires sont mis à la porte pour les JO. L'article du 7 février de West France nous apprend que de nombreux propriétaires parisiens ne renouvellent pas le bail de leurs locataires dans l'espoir de pouvoir les louer plus cher durant les JO. Ces logements pourront être loués plus de 700 euros la nuit sur les plateformes de location de courte durée durant la compétition. De leur côté, les locataires ont du mal à trouver un nouveau logement. En un an, le nombre d'annonces de location longue durée aurait baissé de 50% à Paris, selon la plateforme immobilière Se Loger. Et tant qu'on est dans le mécontentement, parlons des grèves qui menacent le bon déroulement des Jeux. Le média 20 minutes nous partage la crainte face à la multiplication des grèves, comme celle organisée ce week-end par les contrôleurs de la SNCF ou ce lundi par les salariés de la Tour Eiffel. Plusieurs professions seraient susceptibles de profiter d'un rapport de force favorable à l'occasion des JO pour faire entendre leurs revendications. Je cite « Reste encore de nombreux premiers de cordée qui pourraient faire valoir leurs droits d'ici à l'été. Soignants, livreurs de repas, chauffeurs d'autocars, routiers. La liste est longue et risque de donner des sueurs froides au COJOP et au gouvernement, surtout si l'opposition, Mathilde Panot en tête, pousse à utiliser le rapport de force au maximum. » Parmi les menaces qui inquiètent le bon déroulement des Jeux, les cyberattaques. En 2018, durant les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, un logiciel malveillant s'est propagé au sein du système informatique des Jeux. Le Monde nous explique que parmi ses fonctionnalités se trouvent le vol d'identifiants et la suppression de fichiers. Plusieurs conséquences très concrètes pour les spectateurs, certains réseaux Wi-Fi ne fonctionnaient plus, des écrans de télévision au sein des stades s'étaient éteints et il était impossible d'imprimer des billets d'entrée pour la cérémonie. Cette année marquante est un référentiel pour les agents du réseau informatique des JO de Paris qui ont pour mission d'éviter à tout prix ce type d'incident. Franz Régul, responsable de la sécurité des systèmes d'information de Paris 2024, raconte « 2018 est un marqueur dans l'histoire technologique des JO. Pour beaucoup de gens que l'on a pu croiser, ça a été un traumatisme. Parmi les équipes de réponse à incidents qui vont travailler pour nous, il y a d'ailleurs des vétérans de 2018. Des exercices ont déjà été organisés pour se prémunir d'attaques et pour rétablir des systèmes importants en cas de problème. » C'est la fin de cette revue de presse sur l'avancement de l'organisation des JO 2024. Alors, aucun doute, nous aimons regarder le sport. Mais aimons-nous le pratiquer? Sûrement moins, car plus d'un quart de la population adulte mondiale est insuffisamment active. Les niveaux de sédentarité sont deux fois plus élevés dans les pays riches que ceux à faible revenu, et il n'y a pas eu d'amélioration des niveaux mondiaux d'activité physique depuis 2001. Nous avons donc plutôt tendance à être sédentaires, et c'est bien dommage car les bienfaits du sport sont énormes tant sur le plan physique que psychologique. Améliorer la santé osseuse musculaire, la capacité cardio-respiratoire, mais également à des niveaux plus élevés de sport, améliorer la qualité du sommeil, la santé cognitive et mentale, notamment en réduisant les risques de dépression. Dernier bénéfice physique et pas des moindres, l'activité physique régulière réduit les risques de mortalité, toutes causes confondues, ce n'est pas rien. Mais de quoi parlons-nous concrètement lorsque l'on évoque une activité physique régulière? Pour les adultes de 18 à 65 ans, il s'agit de pratiquer entre 2h30 et 5h d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine, ou entre 1h15 et 2h30 d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine. À cela, vous pouvez ajouter une activité de renforcement musculaire à pratiquer deux fois par semaine, et ça y est, vous pouvez profiter d'un maximum de bénéfices pour votre santé. Et n'oubliez pas que tous les sports sont permis, seuls ou en groupe, intenses ou plus relax, l'important c'est la régularité. Une séance de natation, yoga, marche à pied ou de renforcement musculaire peut apporter autant de relaxation qu'un anxiolytique. Et oui, le sport aide contre la dépression, l'anxiété, les troubles de l'humeur. Je vous cite un passage de Kern Info, les bienfaits psychologiques de l'activité physique pour la santé mentale optimale, par Emmanuel Poirel. La recension d'O'Connor, Raglin et Martin Zen indique que l'anxiété est réduite après 20 minutes d'activité physique continue, impliquant une large masse musculaire, en l'occurrence la natation, la bicyclette ou la course à pied. D'autres recherches montrent qu'une marche rapide de 25 à 75 minutes sur tapis roulant à intensité modérée, 60 à 75% de la fréquence cardiaque maximale, a un effet sur l'humeur, l'anxiété, les symptômes de dépression, l'espoir, la culpabilité et l'auto-efficacité. Un autre extrait. Des recherches montrent aussi qu'une séance d'activité physique a une influence positive sur les performances cognitives en améliorant la capacité à planifier et à résoudre des problèmes, ainsi que la mémoire à long terme. Malgré tous ces bénéfices, nous sommes nombreux à freiner des quatre fers face à l'exercice physique. Alors, avec Noémie Videra et Nathan Foulon, nous vous proposons deux reportages et une interview sur le thème du sport, chacun en mettant un en avant. De la pole dance au volley en passant par l'escalade, explorez avec nous ces sports aux multiples facettes. Tout de suite, le reportage de Jade Seni sur la pole dance. Oser se lancer dans la pole dance, ça ne va pas de soi. Ce sport que l'on associe au monde de la nuit tire effectivement ses origines des danses pour adultes dans les fêtes foraines durant la Grande Dépression. Mais aujourd'hui, la pratique s'émancipe de ce stigmate au point d'être sponsorisée par des marques comme LVMH et certains professionnels tentent même de faire reconnaître la pole dance auprès du comité olympique. Un large public, majoritairement féminin, est attiré par ce sport qui requiert force, grâce et souplesse. Florence, gérante de Air Dance Studio, anime des séances de pole dance et est également professeure de sport à l'Université de Lille. Je l'ai rejoint durant un de ses cours, très attractif.
Un sport convoité. Quelques filles n'ont pas pu accéder au cours, la salle étant déjà occupée par une vingtaine d'élèves.
J'ai interrogé la professeure de ce cours sur l'engouement que rencontre cette pratique.
Alors, Florence, vous êtes à la fois du coup, professeure de pole dance, gérante de Air Dance Studio et professeure de sport à l'université.
C'est ça.
Dans ce cours avec les élèves de l'université, il y a une vingtaine d'élèves, donc c'est un signe que la pole dance attire. Pour vous, cet essor de la pole dance, à quoi il est dû ?
Alors, je pense que au fur et à mesure des années, la pole dance, les clichés sont un peu tombés. Parce qu'avant, moi j'ai commencé il y a 12 ans. Ouais, bientôt 13. C'était pas encore ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que c'est une pratique sportive complète, que c'est bénéfique pour le corps, que c'est bénéfique pour le mental et que c'est aussi super libérateur.
Vu que c'est un sport très complet, effectivement, ça attire beaucoup. Il y a certaines personnes qui justement essayent de rejoindre mais qui peuvent avoir des difficultés parce qu'il y a peu de cours en fait qui sont délivrés parfois. Enfin, on peut ressentir qu'il y a peu de cours ou bien que les prix sont élevés. À quoi c'est dû ?
Bah, c'est dû que c'est une discipline acrobatique qui se pratique en petit nombre. Là, pour l'Université de Lille, j'ai poussé les murs, mais d'habitude, c'est quoi ? Le cours maximum, c'est 12-15 personnes. Après, pour moi, je trouve que c'est trop parce que si on veut une pratique qualitative, il faut vraiment être derrière chacun, accompagner, expliquer. Les cours, je pense que ce qui freine, c'est plutôt le prix. Mais ça, c'est un peu comme tous les... Moi qui viens de l'univers du sport, c'est un peu comme tout ce qui est ce qu'on appelle small group training. C'est-à-dire, c'est comme le crossfit, les cours en petits groupes. C'est pas du cours collectif avec 50 personnes comme dans les grands clubs. C'est pas du coaching one-to-one, c'est du petit groupe. Donc, ceci explique cela. Mais aussi, la grosse spécificité de la pole dance, c'est que la majeure partie des cours sont des cours qui durent 1h30. Donc forcément, un cours de 1h ou de 45-50 minutes pour un cours de fitness standard, avec la proportion, c'est tout à fait logique. Au contraire, je pense même que... Surtout que la pole dance est surtout donnée par des indépendants.
Tandis que la professeure montre les mouvements avec grâce et aisance, s'élevant haut dans les airs, les filles observent, s'imprègnent et miment les gestes depuis le sol.
Donc, voyons pas ces mains. Quand je dis ces mains, c'est droite, gauche, pignon statique. Le site.
Ouais, la main, là, elle est mieux. Décale ton bassin.
Toi, t'as senti des bénéfices depuis que t'as commencé, en fait, le sport ?
C'est assez satisfaisant de se voir faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire au bout de seulement quelques séances. Au niveau musculaire aussi, hein, ça bouge beaucoup.
Et il y a aussi le côté, il y a un peu de tout dans la pole dance. Il y a du sport, il y a de l'artistique, il y a de l'acrobatie. C'est vraiment à la croisée de plusieurs mondes et je pense que c'est tellement les styles de pole sont tellement différents que tout le monde peut y trouver son compte. Il y a à la fois de la pole sexy, de la pole ninja, de la pole sportive. Il y a vraiment, c'est super varié.
Finalement, c'est super physique. Nous, on fait de la Zumba à côté et franchement, c'est super. Finalement, c'est cool, la prof elle est bienveillante et tout. Et ouais. Finalement, je ne m'imaginais pas apprendre aussi finalement.
L'entraide est de mise, car lorsqu'on a intégré un nouveau mouvement, un coup de main n'est pas de refus pour le reproduire en hauteur.
On fait des remarques sur Atine, on va faire comme ça, plutôt comme si. qu'en plus c'est dur parce qu'on ne peut jamais, enfin c'est difficile de se voir quoi. Donc enfin faut se filmer. Nous aussi on a pas mal de bleu c'est au début et puis la peau rouge quoi.
Ça en vaut le coup quand même.
Bah ouais ça fait mal mais c'est satisfaisant. Et puis au fur et à mesure des semaines ça. On a de moins en moins mal au niveau du grip dans la peau quand elle accroche là-bas.
Il y a trois grands types d'appréhension. Donc pour les jeunes, les universitaires, ça va être le prix. Pour certaines personnes, ça va être dire oh, c'est trop dur, c'est pour moi, c'est pas pour moi, j'adore, mais non, c'est pas pour moi, c'est trop beau, oh, j'y arriverai jamais. Et le troisième, aussi pour un public adulte, mais peut-être différent, ce serait, j'imagine, les a priori, donc soit l'image qu'on a de la pole dance. Il y a ça, ou alors le fait de se dire il faut des prérequis physiques, alors que pas du tout.
Toi, les gens qui ont
disent oh, j'ose pas. Il y a le j'ose pas mental, ou oh, c'est pas pour moi, je veux dire, les filles qui ont peur de se montrer, ou qui ont peur d'être en petite tenue devant tout le monde, alors qu'en fait tout le monde s'en fout. Hein. T'auras regardé, tout le monde s'en tape complètement. Et le j'ose pas physique en disant ouais, faut faire de la musculation avant, alors qu'il y en a aucun des deux qui est valide en fait.
C'est-à-dire
bah, qu'il n'y a pas de prérequis nécessaire, comme j'expliquais, et qu'au contraire, quand on se rend compte qu'on est capable de faire des trucs, de se faire plaisir, et dire ah ouais, en fait, si je me donne les moyens, je peux y arriver, c'est comme tout en fait. Hein,
c'est la force d'entraînement ?
Oui, tout à fait. Ah ben ça, c'est comme tout en fait.
Oui.
Le j'ose pas, le prix et le préjugé, je dirais, c'est ces trois-là.
C'est vrai que en vrai, moi j'avais quand même des a priori par rapport à la pole dance. C'est vrai que c'est pas un sport que je m'imaginais, nous, c'est dans le cadre de l'université. Et c'est pas du tout un sport que je voyais forcément dans ce cadre-là au tout départ.
Ouais, que ce soit proposé même au sein de tous les sports qu'il y a, comme le basket et tout ça. C'est vrai que c'est cool, ça, je quand même.
C'est vrai qu'on a un peu l'image du truc sexy et pas forcément sportif comme on peut s'imaginer. En fait, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un sport comme les autres finalement. Enfin, c'est vrai que par la télé, etc., on a l'impression que c'est un peu sexualisé et tout, mais finalement. Là, c'est tout à fait normal, quoi. Et c'était quoi pour toi la plus grande difficulté que t'as surmontée dans ce sport-là ?
Je pense que c'est le côté musculaire, parce que j'avais pas fait de sport depuis un petit moment, du coup c'est le temps de reprendre un peu de muscles, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de figures qui demandent des muscles. Sinon, ouais, voilà, ça donne ça.
Pour toi, c'est quoi la plus grosse qualité de ce sport ? Le truc qui te fait dire « Ah ouais, j'aime bien, j'ai envie d'y retourner ».
Il y a surtout deux trucs, c'est que d'un point de vue sportif, ça fait travailler vraiment beaucoup de choses et tous les muscles. Et il y a le côté esthétique aussi que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait beaucoup de danse aussi quand j'étais petite et je retrouve un peu ce côté-là.
Est-ce qu'on a des bleus quand on fait ça ?
Oui,
beaucoup trop. Des bleus et la peau rouge aussi après la séance.
Justement, est-ce que vous constatez quand ces élèves-là sautent quand même le pas et essayent des grandes améliorations et plutôt sur quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez, vous, en tant que professeur, constater comme différence ?
En général, la pole, c'est très addictif. Donc soit on adhère, soit on n'adhère pas. Parce qu'en plus, je veux dire, les premiers contacts, c'est un peu douloureux parce qu'on n'a plus l'habitude aujourd'hui, même dans des cours d'abdos fessiers tout simples, je vois bien, les gens, ils n'ont même plus l'habitude d'avoir des sensations musculaires. Et donc, non, on adhère bien. On se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on imagine. Quand on est bien encadré, évidemment, parce que c'est un sport à poids de corps. Il faut que ce soit... Moi, j'insiste sur le fait que ça doit être quand même super bien encadré. Il faut bien se connaître et on fait faire du sport aux autres. Et c'est pas comme en muscu où on peut adapter les charges. Là, il faut vraiment y aller. Il y a toute une spécificité des figures initiation qui vont amener aux figures débutantes, puis intermédiaires, qui suivent une progression en termes de force, en termes de mobilité aussi, en termes aussi de perception de l'espace. Donc, non, en général, les barrières tombent assez facilement.
Et les élèves, qu'en pensent-ils ?
Oui, ça par exemple, j'arrivais pas à le faire au début. Moi, la première fois, j'ai réussi à la fin de mon semestre, mais jusque-là, j'arrivais pas.
Un sport qui s'éloigne de sa réputation sulfureuse, les tenues légères sont toujours présentes et pour une raison bien précise. Oui, parce qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut avoir une tenue relativement légère, c'est pour pouvoir mieux accrocher
ouais.
à la barre.
Ouais, sinon ça glisse, c'est encore plus dur.
Et si le sport s'émancipe des stigmates, il attire également un nouveau type d'adhérents.
Et est-ce que vous diriez que ce serait plutôt une bonne chose si les garçons se mettaient à plus intégrer ce sport, ou c'est bien qu'il reste principalement féminin ?
Non, je pense que ça peut être bien, parce que les garçons qui intègrent ce sport, ils vont voir que... Je pense que ça demande une certaine ouverture d'esprit, que ce soit sur le physique ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense que ça permet vraiment une meilleure tolérance des différences, que ce soit homme-femme, des physiques. Par exemple... Surtout dans les... Enfin, je sais plus, c'était l'an dernier, j'avais... Elle travaille en binôme ou trinôme. J'en avais deux, une toute mince et une très dodue. Et les deux, elles avaient des difficultés, mais pas au même endroit. Donc ça prouve bien que c'est pour tous les corps. Ça amène la tolérance, je trouve. Donc ça, c'est quand même bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas un corps idéal pour faire quoi. C'est... Non, non, il y a plein de bons messages et de body positive.
Est-ce que vous diriez que c'est un sport revendicatif par rapport à la réappropriation de son corps ?
Complètement, je trouve qu'il y a beaucoup de... Je rencontre beaucoup de nanas féministes. Oui, c'est une réappropriation de son corps, de son mental. Je suis capable de faire ça, de se dire décomplexé, décomplexant.
Dépasser les préjugés, surmonter les premières difficultés pour gagner en force, en souplesse, en habileté. Pas de doute, oser, c'est bien le maître mot de ce sport. C'était le reportage de Jade Seni. On continue à s'élever avec un reportage sur l'escalade par Noémie Videra, Nathan Foulon et Jade Seni.
Je m'appelle Johan, j'ai 28 ans.
Je m'appelle Nolwenn, j'ai 28 ans.
Nicolas.
Et moi, Iman.
Alors moi, c'est Lucas.
Kélian.
Valentin.
Et bah, je m'appelle Nicolas et je fais de l'escalade depuis une quinzaine d'années, je pense.
Depuis combien de temps vous faites de l'escalade ?
Ça doit faire 3 ans.
Et moi, j'y vais pas énormément, du coup, je dirais 1 an en tout.
J'ai commencé il y a 1 an, mais de façon très épisodique avec les copains. J'ai eu un gros trou là, parce que la dernière fois que j'y suis allée, je me suis blessée et j'avais pas tellement le temps d'y retourner, mais du coup là je reprends.
Moi j'ai repris il y a pas longtemps, j'en ai fait de manière plutôt éparse parce que j'avais pas les moyens. Maintenant que je suis un petit peu plus stable financièrement, je peux me permettre d'y retourner et ouais, ça fait à peu près moins d'un mois que j'ai repris régulièrement.
Moi ça va faire 2 ans et demi là. À peu près 3 ans,
ça fait 1 an et demi.
Pourquoi vous avez choisi ce sport-là ? Qu'est-ce qui vous apporte ?
Le social et la paix. Voilà.
Moi je trouve que c'est une bonne activité pour se détendre, se défouler.
Moi je le vois un petit peu comme un jeu. Et en même temps, je trouve que ça développe autant le mental, le physique, la réflexion, etc.
Pour le moral, ça fait vraiment du bien. C'est comme si c'était un jeu, tu vois. Déjà avec les couleurs et tout ça, c'est vraiment un jeu pour moi et par rapport aux autres sports, quoi.
Pour vous, ce serait quoi les qualités d'un bon grimpeur ?
Éviter la compétition, finalement, c'est ce qui te rend assez cool. Je pense que les qualités d'un bon grimpeur, c'est un grimpeur qui est humble.
Savoir reconnaître ses limites, déjà. Et pas surestimer son corps. Et après, la persévérance.
Ni se sous-estimer, d'ailleurs.
La détermination, le fait de vouloir aller de plus en plus loin et prendre son temps, pas s'énerver.
La curiosité, un petit peu, de se laisser tenter par des pistes, des voies qu'on pense au-dessus de notre niveau, mais qu'on essaie quand même, et c'est comme ça qu'on progresse au mieux, quoi.
J'imagine que c'est quelqu'un qui arrive à passer au-delà de ses limites personnelles, de se dire « Ah, je suis trop petit, je suis pas assez musclé, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça », parce qu'au final, Quand on va à l'escalade, on se rend compte qu'il y a plein de corpulences différentes qui y vont. Et il y a plein de corpulences différentes qui ont des niveaux différents.
Ouais, c'est ça, il y a une forme de détermination. Et je pense que la plupart aussi devraient faire plus attention quand ils se blessent. Mon meilleur pote est du genre à dire « Ouais, je me suis fait mal au doigt, mais je m'en fous, je vais quand même. » Et après, il dit « Ah, c'est gonflé !» Bah oui, il y a un truc entre déterminé et un peu têtu et à l'écoute de son corps quand même, parce qu'on peut se blesser très facilement.
Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de profil trop type pour un bon grimpeur. Ça peut être... Il y a des gens qui sont hyper souples et des gens qui sont plus musclés, on va dire. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que... Tu peux avoir plein de méthodes pour faire un bloc, pour faire une voie, mais du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de profils différents qui arrivent à bien grimper.
Et est-ce que vous avez ressenti du coup des bénéfices en pratiquant ?
Il y a une expérience que je trouve cool dans le fait d'être un peu tout seul avec ton corps. T'es responsable de l'objectif que tu veux atteindre et t'as juste à t'entraîner avec toi-même, comprendre mieux la piste. C'est très intérieur, je trouve, comme sport, et c'est ludique aussi, c'est fun. Tu ressens moins l'effort que la récompense d'être arrivé au bout du truc, donc si tu chues un peu quand même, hein, mais, mais ça reste fun quoi. Je suis pas une grande sportive, mais là j'ai trouvé un truc que je trouve chouette à faire, et aussi là, généralement les gens sont adorables, t'aident et te conseillent, donc c'est vraiment bonne ambiance. Et ouais, il y a un truc un peu d'introspection, je trouve, de se dépasser, d'être seul face au mur. Voilà.
Les premières difficultés, je pense que tout le monde a, c'est la peur de tomber. Et plus t'en fais, plus ça passe, plus t'arrives à la gérer. Par rapport à la pratique de la montagne, ça permet de s'entraîner hyper spécifiquement sur la variété des mouvements. Et au final, c'est hyper complémentaire. C'est une pratique qui est peut-être plus jeune, le bloc. Maintenant ça se développe, il y a de plus en plus de salles, et je trouve qu'on arrive à progresser vachement plus vite qu'avant grâce à ces salles, grâce à toutes les nouvelles prises et toute l'émulation qu'il y a autour de tout ça.
Le fait d'être dans une salle avec d'autres gens qui font des pistes peut-être plus difficiles que toi ou moins difficiles que toi, et les voir avoir à peu près le même parcours, essayer des pistes, les pistes les plus difficiles, c'est regarder les gens faire des pistes rouges et des pistes noires, et les regarder galérer et réessayer et y arriver quand même. Je pense que ça désinhibe pas mal face à cette notion d'échec, face à cette notion d'erreur.
Est-ce que vous ressentez de la compétition dans ce sport par rapport à d'autres sports que vous auriez pu faire avant ? Je pense que c'est pas la même nature de compétition. J'ai l'impression que c'est plus un truc qui te pousse dans le dos. C'est que tu vois ton pote passer celle sur laquelle tu galères depuis 10 minutes, lui il arrive, il l'a fait en une fois, t'es dégoûté, mais c'est un truc bon enfant.
Je trouve qu'il y a une notion de compétition, mais qui reste assez saine. Et puis même, quand t'as des potes qui ont un meilleur niveau que toi, ou que toi t'as un meilleur niveau que tes potes, généralement t'es pas là pour les enfoncer ou quoi que ce soit, tu te sens toujours soutenu.
Il peut y avoir une sorte de compétition, mais plus bénéfique, un peu. On se tire la bourre pour essayer d'être le premier à faire le bloc, mais c'est plutôt bon enfant en général.
L'escalade, c'est aussi de l'entraide, parce que tu vois un peu comment les gens, leur technique et tout ça, et tout le monde peut dire un peu mets mieux ton pied comme ça et tout ça. Du coup, je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est beaucoup de partage.
Maintenant, on remet les pieds sur terre, c'est l'entretien de Nathan Foulon.
Lorsqu'on parle d'un sport, on pense avant tout aux athlètes, ceux ayant les projecteurs braqués sur eux, car évidemment étant la vitrine de la discipline qu'ils exercent. Mais derrière, on oublie les travailleurs de l'ombre, ceux étant tout aussi importants que les sportifs en lui-même. Ils agissent comme le moteur d'un collectif ou alors comme un soutien pour leurs athlètes. On parle bien sûr de l'entraîneur. Et aujourd'hui, Quoi de Neuf vous emmène à la rencontre d'un coach d'une équipe de volleyball féminine pour parler de sa pratique et de sa conception de cette activité qui peut être à la fois tout aussi dure qu'elle peut être passionnante à exercer.
Donc déjà, si vous pouvez commencer par vous présenter, donc nom et qu'est-ce que vous encadrez exactement comme équipe ?
Moi, je m'appelle Guillaume, j'encadre une équipe d'accession régionale féminine.
Et moi, c'est Marie, donc cette année, j'aide Guillaume dans toutes ses tâches d'entraîneur.
D'accord, donc la première question, ça va être évidemment, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir devenir coach ou donc co-coach dans l'équipe donc pour la pour l'accession régionale féminine.
Qu'est-ce qui m'a poussé ? Je pense que c'est complexe comme question. Je pense que déjà il y avait un besoin. Il faut savoir qu'au sein des entraîneurs, il y a un énorme besoin. Il y a un énorme vide. Après, au niveau des féminines, ça me plaisait parce que je m'entendais bien, tout simplement avec les filles qui ont constitué mon groupe, et que je souhaitais aussi les aider à développer leur potentiel, parce qu'elles sont largement, même plus que largement capables de faire des trucs formidables, et que je crois en elles, et que c'est ça aussi qui m'a poussé à être coach, c'est parce qu'on croit en des gens et qu'on veut les voir se développer au meilleur d'eux-mêmes.
Et moi par contre c'est plutôt un concours de circonstances dans le sens où j'étais joueuse donc de cette équipe l'année dernière et je me suis blessée, je savais que j'allais être indisponible pendant au moins un an et donc j'ai voulu un peu contribuer à ma façon, enfin au développement de l'équipe. Du coup comme je ne pouvais plus être joueuse c'était un peu, on en a discuté avec Guillaume et puis ça a été assez évident de travailler tous les deux pour développer l'équipe.
Ok. Et c'est une question qui va te concerner aussi, c'est est-ce que tu as l'impression que gagner en tant qu'entraîneur ou entraîneuse, est-ce que ça apporte autant de plaisir que quand tu vas gagner en tant que joueuse ?
Oui, sur le plaisir, je pense que c'est le même plaisir. Après, c'est différent dans le sens où on fait quand même partie du groupe, un peu de l'extérieur, on va dire, mais le plaisir, oui, il est le même, le plaisir de gagner.
Oh, je suis tout à fait d'accord, le plaisir de gagner est exactement le même. Ça fait énormément de bien de voir que le groupe dont nous faisons partie gagne. En fait, c'est gratifiant.
Donc comment faire pour trouver un compromis entre le loisir, donc permettre à tout le monde de s'amuser, de pouvoir profiter, et à la fois l'aspect compétitif, parce que l'objectif c'est quand même la montée, l'accession régionale, c'est possible.
C'est toujours difficile. Mais ça part toujours d'un constat, et je pense que ça part toujours d'un objectif. C'est-à-dire l'objectif que l'équipe s'impose. Qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Si on souhaite être plus orienté vers compétition ou plus vers loisir ? Et ça va dépendre énormément des équipes. Et chaque équipe a le droit de s'orienter comme elle veut, et ça peut changer aussi au sein des, au moment des au moment de l'année, en fait. Donc, mais après, une fois que c'est lancé, c'est des fois difficile, c'est très très difficile de garder un équilibre parce que certaines fois on se dit qu'on aimerait plus certaines choses en tant qu'entraîneur et des fois plus d'autres, mais il faut essayer de garder en tête ce qu'on a dit et c'est ça le plus difficile, c'est de se garder sur une ligne, comme dirait quelqu'un que je connais bien, une corde raide entre ces deux précipices et ces deux extrémités.
Donc, comment est-ce que ça s'organise pour tout ce qui touche au remplacement, on va dire ? Parce que parfois... Pour le vivre aussi de mon côté, ça peut parfois créer de la frustration. Et comment est-ce que vous faites ça pour gérer ça, pour cette approche, pour toutes les joueuses en tout cas ?
Alors, c'est difficile à organiser. C'est difficile à organiser parce que, encore une fois, moi je coach depuis pas longtemps. Ça fait que 2 ans que je coach concrètement. J'apprends encore énormément. Du coup, je le fais quand je le ressens, quand on voit qu'une joueuse est à la peine. Mais il faut prendre beaucoup d'attention à pas débalancer le groupe si on veut. Donc c'est quelque chose qui est très difficile. C'est très très difficile. C'est très difficile à expliquer aussi. C'est très difficile à mettre des mots dessus. Parfois, le plus simple, c'est de mettre des statistiques pour montrer qu'est-ce qui se passe. Mais c'est pas la panacée, les statistiques, bien au contraire. C'est un outil. Et c'est parfois juste le ressenti en fait, du coach qui aide à se dire là je pense que, et parfois on se trompe, parfois en fait c'est juste on se trompe et c'est difficile à entendre parce que pour les autres, pour nous-mêmes, que parfois on se trompe là-dessus sur les changements qu'on aurait dû faire autrement, mais parfois on pense bien faire, tout simplement. À chaque fois qu'on fait un changement, c'est qu'on pense que c'est le mieux. Après on n'est pas maître de ce que les autres ressentent par rapport à ce changement, malheureusement.
Après il y a de la pédagogie aussi, je pense, à faire en amont, où là c'est vrai que les filles du groupe, elles sont toutes au courant que parfois elles vont venir en match et elles vont très peu jouer ou pas jouer parce que sur la configuration d'un match en lui-même, elles vont pas être utiles à l'équipe, Sur ce match-là, après, ça veut rien dire sur leur qualité ou je ne sais quoi. Enfin, le match d'après, ça va être complètement différent. Une fille qui n'a pas joué un match, le match suivant, ça va mieux lui correspondre et elle va le jouer en entier. Enfin, c'est vrai qu'il y a aussi toute cette pédagogie à faire où les filles savent très bien que parfois elles vont avoir peu de temps de jeu, mais ça remet pas du tout en cause leur compétence ou quoi que ce soit, et ça, elles le savent. Donc.
Et est-ce que vous considérez un peu que le travail d'entraîneur, parfois, il peut être un peu critiqué et de manière ingrate ? C'est-à-dire, on va vous critiquer alors que vous vous donnez à fond, et au final, vous avez l'impression que tous les efforts que vous faites, ils ne sont pas visibles.
Moi, je pense que c'est le cas. C'est le cas parce que si ça n'était pas le cas, on aurait une profusion d'entraîneurs beaucoup plus importants. Sinon tout le monde, y aurait plein de gens qui voudraient faire entraîneur, mais aujourd'hui on voit qu'il y a peu de gens qui veulent faire entraîneur parce qu'en effet c'est ingrat parce qu'on n'est pas sur le terrain, c'est ingrat parce qu'on n'a pas la capacité parfois de changer des choses qu'on aimerait voir changer chez les autres. On ne peut que conseiller les changements, mais on ne peut pas les imposer chez les autres, et parfois on a tendance à dire malheureusement dans le monde du coaching que les victoires c'est les joueurs qui les obtiennent, les défaites c'est à cause du coach. Et c'est le point le plus difficile à entendre en tant que coach, parce qu'on a tous de l'amour propre, parce qu'on aimerait tous être mieux, et on aimerait tous que ça se passe bien. Donc ouais, parfois c'est un peu ingrat.
C'est vrai qu'en tant que joueuse, je me rendais pas forcément compte de tout le travail en fait qu'il y avait en amont et même après par la suite, après les matchs, après chaque entraînement. C'est vrai que c'est énormément d'investissement en temps, en énergie, sur le plan émotionnel. C'est vrai que et donc il faut quand même réussir à allier tout ça en fait pour réussir à tenir une saison complète, ce qui est pas forcément facile pour tout le monde. Donc ouais, c'est vrai que ça demande énormément d'investissement, et parfois c'est vrai que c'est pas forcément reconnu à sa juste valeur, mais c'est le jeu, c'est comme ça.
Et donc la dernière question, ça va être comment est-ce que vous faites pour gérer des besoins individuels au sein d'un collectif même, parce que certains ils vont avoir besoin de travailler sur un certain point mais que les autres le maîtrisent déjà, donc comment à peu près réussir à gérer tout ça, gérer l'individuel dans le collectif?
C'est une tâche qui est longue, qui est difficile en fait, de gérer l'individuel dans le collectif, parce que le collectif peut avoir besoin de X et l'individu va avoir besoin d'autre chose. Du coup, sur l'individu, on va essayer de s'investir sur certains petits points quand elles sont par exemple déjà en avance. Mais souvent, le collectif a une faiblesse collective et donc il faut la bosser collectivement. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'investissement sur le collectif est très important, parce qu'on est sur un jeu d'équipe en fait. Donc l'investissement sur le collectif est primordial, et en fait ça passe parfois avant l'individu. Mais il faut que l'individu se dise aussi que quoi qu'on bosse, lui il peut en retirer quelque chose. Parce que même si on bosse une technique qui est simple, lui, il va pouvoir pendant ce temps, en même temps, le perfectionner encore plus. On a toujours cette milliseconde à aller chercher. Oui, donc pour moi, l'individu, il doit aussi prendre sa part de l'entraînement collectif. Et même parfois, je dirais même au-delà, l'individu, il doit aussi impulser le collectif. Si lui, l'individu, il sait mieux faire, il a le droit aussi d'aller voir les autres et d'aider les autres. Parce qu'on est sur un jeu qui est collectif. Et donc, l'individu progresse, le groupe progresse. Et le groupe progresse, l'individu progresse. C'est une synergie. Les individus ne peuvent pas progresser si le groupe ne progresse pas. Et les groupes ne peuvent pas progresser si l'individu ne progresse pas. C'est une synergie. C'est assez simple. On ne peut pas se dire, on va mettre tous les meilleurs ensemble et ça fait une équipe et on va gagner. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Il faut que l'individu se tourne vers le collectif autant que le collectif se tourne vers l'individu.
Donc, si vous avez un petit dernier mot à dire, que ce soit personnel ou pour votre pratique, est-ce que vous auriez un petit truc à dire pour finir?
Ouais, même si c'est dur, le coaching, c'est plein de bons moments. On va être clair, c'est plein aussi de mauvais moments. C'est difficile. Et si vous êtes joueur, soyez déjà heureux d'avoir un coach. C'est déjà pas mal. Dites-lui que vous êtes content de l'avoir, ça lui fera toujours plaisir et ça le motivera qu'encore plus à se dépasser lui aussi, parce que lui aussi quand il vous fait bosser, il bosse aussi lui aussi, il se dépasse pour vous, et voilà, c'est important, Et sachez que la plupart des coachs aussi sont heureux de vous avoir dans votre équipe, dans son équipe.
C'était l'entretien de Nathan Foulon. Nous avons abordé l'importance du sport et de ses bienfaits. Je voudrais vous parler de santé et de bien-être en évoquant une chose dont vous avez sûrement déjà entendu parler, l'effet placebo. Connaissez-vous l'effet placebo ? Savez-vous que vous l'expérimentez à chaque fois que vous prenez un traitement ? Un placebo, c'est un traitement n'ayant pas d'effet sur une pathologie, par exemple un comprimé de sucre pour guérir vos maux de tête. L'effet placebo désigne la rémission de certains symptômes après l'utilisation d'un placebo. Cette réaction n'est donc pas due au traitement en lui-même, mais plutôt à une réaction psychologique et physiologique du patient. Un placebo peut être impur, c'est-à-dire qu'il a des principes actifs, mais qui n'ont pas d'effet sur les bénéfices ressentis. Par exemple, un antidouleur qui calme l'anxiété. Des réactions chimiques dans notre cerveau, émettant entre autres des endorphines, sont à la base de ce résultat. Les études sur ce sujet se multiplient et nous ne pouvons ignorer son importance. L'effet placebo représenterait environ 30% des réactions à la douleur et parfois plus de 50%. Il est particulièrement efficace sur les maladies psychosomatiques. Après la prise de placebo, jusqu'à 60-70% des patients ressentent une amélioration dans les cas de troubles dépressifs ou anxieux, entre 26 et 32% dans les cas de migraines. De façon plus surprenante, le placebo semble effectif contre la maladie de Parkinson, une maladie neurodégénérative. La voie d'administration exercera une influence sur l'efficacité de l'effet. Plus le traitement est invasif, plus l'effet placebo sera puissant. Le placebo chirurgical, donc une fausse chirurgie, sera plus efficace que le placebo administré par voie veineuse, qui sera lui-même plus effectif qu'une pilule placebo. D'autres facteurs entrent en compte. Plus le patient est impliqué dans la prise du traitement et plus ses attentes sont hautes, plus l'effet se ressentira. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres à l'effet placebo. D'après une étude de Beth Israel Deaconess Medical Center et d'Harvard, parue dans PLOS ONE, cela pourrait être dû au gène COMT. Les allèles de ce gène joueraient un rôle sur le taux de dopamine dans le cerveau. La prédisposition d'une personne à ressentir l'effet placebo est appelée placebome. Mais bien sûr, l'effet placebo ne peut pas être réduit à cette simple explication. D'autres hormones ont leur rôle à jouer dans ce mécanisme plus complexe qu'il n'y paraît. Le comportement du soignant, par exemple, peut également être déterminant dans l'ampleur de l'effet. Un praticien chaleureux, bienveillant et charismatique aura plus de chances de susciter l'effet désiré. Dans notre esprit, placebo est souvent synonyme de duperie, mais il pourrait être un réel allié à la guérison. L'effet placebo est déjà présent dans tous les traitements. Le simple fait de penser qu'un médicament ou une opération sera efficace nous mène naturellement à nous sentir mieux, même si la substance n'a pas eu le temps de faire effet. C'est l'effet placebo. Un nombre grandissant d'études nous prouve son efficacité et son importance. Cela pourrait mener à une activation volontaire et régulière de cet effet par les praticiens. Mais la question éthique est importante. Pouvons-nous fournir des placebos sans prévenir les patients ? Devons-nous les informer lorsque les traitements n'ont pas de principe actif ? Si oui, cela n'annulerait-il pas l'effet souhaité ? Eh bien non. Le fait d'informer le patient de l'utilisation, tout en lui expliquant ce qu'est l'effet placebo et son efficacité prouvée sur l'organisme, ne nuit pas à l'efficacité de cet effet. Ce dernier devrait donc être perçu comme un outil important de la médecine et non comme une duperie. L'effet placebo est une forme de traitement en soi. Quoi de neuf, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un reportage spécial sur les tiny house. À mercredi prochain, même heure, même fréquence.